des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous nous intéressons au motif de l'écrivain et son double, motif extrêmement présent, bien ancré dans la littérature et surtout dans le roman. D'ailleurs, il suffirait de modifier ou plutôt de prolonger la définition que donnait du roman Stendhal. Souvenez-vous, un roman c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin, peut-être, mais que se passe-t-il quand l'écrivain le tourne, ce miroir, vers lui et qu'il y voit soit lui-même, soit un autre, et qu'il choisit d'écrire sur cet autre lui-même, qui peut être aussi un autre écrivain. C'est la question qui réunit aujourd'hui trois écrivains et trois livres qui parlent aussi de la littérature en train de se faire. Ces écrivains, ce sont Anne Serre, qui a choisi de convoquer Enrique Villamatas, Étienne de Montetti, qui a voulu lui réveiller Pierre Loti, et Thierry Hesse, qui nous parlera d'un certain Samuel Richard, dont la vocation d'écrivain et soudain, mise à mal. Bonjour Étienne de Montetti.
Bonjour Christophe.
Vous publiez L'âme en noir chez Gallimard, qui retrace l'histoire d'un homme, Fleurus, un soldat, un écrivain aussi, qui fantasme sur les désenchantés de Pierre Loti, dont il essaie, au moment où on fait sa connaissance, de tirer un scénario. Quand nous le découvrons, en effet, nous sommes en 1944, il est dans une chambre d'hôtel minable, et il est temps, enfin, de redevenir l'écrivain qu'il était. Après une vie où ce jeune aristocrate est devenu un héros de la guerre de 14, chargeant dans la boue de Champagne, avant de se retrouver sur les bords du Bosphore, où il marcha sur les pas d'André Chénier et de Pierre Loti, en se gorgeant de poésie, en écrivant, mais en pratiquant aussi, du moins, les charmes vénéneux de l'amant noir, alias l'opium, où il s'étourdit, où il plonge, jusqu'à sacrifier peut-être un peu de sa capacité de création, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'il vient d'une famille où l'on n'a jamais badiné avec l'honneur, avec la vertu, avec l'esprit de sacrifice. Et il est aussi question d'esprit de sacrifice quand on écrit. Une autre guerre viendra, où la poésie réapparaît, unissant d'ailleurs deux êtres que tout devait séparer, mais que la poésie va unir avant que la mort ne frappe impitoyable, laissant place au chaos et à un rêve finalement inabouti. J'ai bien résumé, Étienne de Montetti.
Très bien, très bien.
Il y a
bien.
Plein de choses. Hein. Il y a aussi un formidable portrait de femme, une très belle Artémis Démétrios. Je voulais vous demander, votre héros rêve de Loti, mais il s'adonne à l'opium comme d'autres s'adonnaient à la fée verte. Est-ce que l'opium, surtout dans ce livre, n'est pas un moyen de chasser, non pas le dragon, mais de chasser la littérature?
Moi, je dirais que c'est là pour chasser un mal d'être qui a été révélé à Fleurus Duclerc, mon héros, par la guerre de 14. Et c'est un homme qui est en fuite. Il a fait la guerre comme tous ses contemporains. Il était dans l'armée parce que c'était une tradition familiale, mais la guerre était un révélateur terrible pour lui. Et il s'enfuit à Constantinople. Et les moyens de la fuite, c'est évidemment ce voyage qu'il fait. Mais c'est aussi s'étourdir dans d'autres univers. La littérature, c'est un refuge, mais c'est certainement aussi, pour une part, une fuite. L'opium, c'est un refuge. Il a un rapport avec l'opium presque sexuel. Mais c'est aussi...
Et d'ailleurs,
c'est
le titre, aussi... l'âme en noir, hein, d'ailleurs.
Oui, parce que je passe sur ce rite qui nécessite de se coucher, qui nécessite d'emboucher quelque chose.
De longs préliminaires aussi.
De longs préliminaires, et puis cette fascination aussi, cette fascination dont on sait qu'à la fois elle va faire jouir et également elle va détruire. Il y a quelque chose d'assez fort. Il s'adonne à ça pour le plaisir et aussi pour la destruction.
Mais qui est lié aussi, cet opium, à la littérature, fondamentalement. On va y
voilà,
revenir.
Il va à l'opium parce que ses lectures, celles de Baudelaire, celles de Gautier, qui, avec Gautier notamment, se mêlent à Constantinople. Même si l'opium vient d'Extrême-Orient, l'opium est présent dans tous les ports.
C'est l'Orient,
et évidemment, c'est un refuge littéraire par excellence, et c'est pour ça qu'il y va.
On en parlera. Bonjour Anne Serre.
Bonjour.
Pas de Pierre Loti chez vous, c'est avec Villamatas, le maître de la manipulation littéraire, que vous avez décidé de voyager et de nous faire voyager. On rencontre un double de l'auteur Anne Serre. Alors c'est Anne Serre, c'est le narrateur. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'aujourd'hui, parfois, on va jusqu'à revendiquer une réalité de son narrateur. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour
non,
vous ?
Moi qui ne suis pas du tout dans l'autofiction, je considère que le narrateur de mes livres, la narratrice, oui. est un personnage, comme voilà. tous les, comme ce que sont les narrateurs, ce sont des personnages.
Et ben c'est
donc
parfait.
Le jeu, J.E., est un personnage qui me ressemble.
Très
je
bien.
Je vous l'accorde. Mais...
Et il y a du J.E.U. aussi, beaucoup,
beaucoup
dans ce
J.E.U.
livre.
Oui, dans
on prend un train avec elle, cette narratrice, pour se rendre dans un festival littéraire à Montauban. Elle a beaucoup hésité. Elle a pris dans son sac l'un des derniers romans d'Enrique Villamatas, Impression de Cassel. Elle est entourée d'écrivains dans ce wagon. Mais à croire que cela ne suffit pas, les vivants, enfin les présents ne suffisent pas. Elle convoque, elle se retrouve d'ailleurs à converser amicalement, il est toujours vivant, Enrique Villamatas, l'auteur du Mal de Montano, jusque dans l'intimité d'une chambre de Montauban. C'est une conversation qui, peu à peu, dans un récit qui est gorgé de références à de la littérature, à des auteurs bien réels, hein, Kafka, Walzer, qui sont des auteurs de votre panthéon, ça que
qui
vous
sont
avez.
Mes saints patrons.
Voilà.
Qui sont
vos
mes saints patrons,
mes
saints patrons.
Bien. Vous le dites bien. Et puis d'autres... moins connus, même carrément inventés.
Oui. Hein,
c'est un plaisir de les retrouver. Et d'ailleurs, c'est un plaisir de détective que vous offrez à votre lecteur. Il va y avoir aussi un détective en chair et en os, puisque vous livrez même, dans une dernière partie du récit, à une parodie de contes policiers que Villamatas aurait tout à fait pu écrire, d'ailleurs.
J'ai même écrit un roman de Villamatas.
Là, on est chez Borges.
Il pourrait l'ajouter à sa liste de romans. Non, s'il en a peut-être écrit 25, c'est le 26e roman de Villamatas que j'ai écrit à sa place.
Très bien. Qu'est-ce qu'il en a pensé d'ailleurs ? Il est au courant, je suppose.
Oui, mais alors là, vous sortez du livre. Là vous sortez du
livre. Ah non, je prolonge le livre.
Moi, je crée un Villamatas fictionnel. Vous me parlez d'un Villamatas réel.
Ouais, comme il porte le même nom,
Il porte le même nom. Alors, celui qui porte le même nom que mon personnage a lu mon livre et... il semble que ce livre lui ait plutôt plu.
Alors on dit, vous savez, c'est la phrase de Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que, sachant cela, ce livre, Anser, qui est un roman, en tout cas, qui n'est pas un essai ni un exercice d'admiration proprement, est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve d'amour que vous puissiez lui donner au Villamatas réel, c'est-à-dire d'écrire un livre qu'il pourrait signer ?
Oui, je pense. Je pense que c'est une preuve d'amour. Mais je pense que c'est surtout une invitation à jouer. Comme lui invite dans ses romans les autres écrivains à jouer avec lui, moi j'ai eu envie, après avoir lu Villamatas, j'ai adoré cette œuvre, et j'ai répondu à cette invitation qu'il m'a adressée, donc j'ai eu envie de jouer avec lui, et je pense que lui peut avoir à son tour envie de jouer avec moi. C'est un jeu, hein, on est des enfants sans enfants, comme il le dit dans l'un de ses livres, hein. Nous sommes des enfants sans enfants qui aiment jouer aux écrivains, et qui aiment jouer aux labyrinthe, on a toutes sortes de jeux de société qu'on adore pratiquer, ou en solo, ou en s'adressant à l'autre.
Et enfin, bonjour Thierry S.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de l'Olivier un roman impossible, qui n'est pas impossible à résumer, en tout cas je vais m'y employer, les auditeurs ne l'ont peut-être pas encore lu. Mais c'est difficile, hein, tant il est érudit, contemporain. On y croise en effet à la fois, alors non pas Villamatas ni Pierre Loti, mais Jonathan Franzen, qui est lu par votre personnage, Eric Woerth aussi. Sakineh Mohammadi Ashtiani, qui était cette femme condamnée à la lapidation en Iran, le Luc d'Omal, des dermatologues, et puis le personnage réel aussi, bien que défunt, de Malek Houssekine, donc mort le 6 décembre 1986 à Paris. On se souvient, c'était après une manifestation étudiante contre le projet de réforme universitaire de Vaquer. Le réel est vraiment présent dans votre livre. Il est devenu, Malek Houssekine, un symbole de la violence policière. On se souvient des fameux voltigeurs. Et c'est sur lui que votre personnage d'écrivain, c'est un peu comme Anser ou le fleurus d'Étienne de Montetti, a envie d'écrire. Simplement, il n'arrive pas à écrire ce roman sur Malek Houssekine. Donc, entre-temps, il accepte un travail de commande à la demande d'un certain Eugène de Sabreuil, un dentiste, un livre sur l'un de ses ancêtres, le duc d'Aumale, une sorte de roman historique qui va ramener, assez ironiquement, votre narrateur écrivain à la conquête de l'Algérie, donc à Malek Houssekine. Les romans que j'écris sont des batailles qui se jouent en moi-même, dit-il, votre narrateur. Est-ce qu'on peut estimer que la bataille est gagnée, Thierry S., dans le sens où le roman qu'on a là sous les yeux, qui porte ce titre de roman impossible, certes c'est le titre, mais il est bien réel par sa publication.
Disons qu'elle est partiellement gagnée, puisque le livre existe. Maintenant, elle se poursuivra peut-être dans d'autres livres, d'autres romans. C'est vrai que le point de départ, finalement, de ce livre, c'est une hantise, une obsession. La mort de Malik Houssekine, donc, vous l'avez évoqué il y a 30 ans, hante Samuel Richard.
Qui est lui-même un personnage de Jura, votre deuxième roman.
Voilà, c'est ça. C'est un personnage que je suis allé rechercher dans Jura, qui était d'ailleurs dans Jura inconsolable face à la mort de sa mère et se posant la question finalement des pouvoirs de la littérature. Est-ce que la littérature peut nous permettre de sauver ceux que nous aimons ? Là, il ne s'agit pas de sa mère, il s'agit finalement peut-être de la France dans une période peut-être difficile de son histoire, la France d'aujourd'hui, mais qui aussi trouve son origine dans la France d'il y a 30 ans. Et est-ce que la littérature peut nous permettre de sauver aussi ce qui peut être part en morceaux ou est dans une situation de chaos. Et donc, voilà, cette hantise, cette obsession de Samuel va le conduire à se lancer dans ce projet romanesque, mais comme vous l'avez dit, un projet qui va être semé d'embûches, un projet dans lequel il va rencontrer des obstacles tels que il va être conduit à des détours qui sont d'autres histoires, finalement, que nous lisons dans le livre.
Mais sur cette image d'un roman achevé, s'appelant le roman impossible, contenant lui-même le projet d'un roman qui n'a pas abouti, finalement, est-ce que le seul fait de sa publication en fait un roman qui, d'ailleurs, était possible puisqu'il a été fait, dans son impossibilité même ?
Alors, il était possible, bien sûr, mais peut-être...
On va prendre un peu d'opium tout à l'heure pour s'éclaircir un peu les idées.
Sans doute n'est-il pas le roman, peut-être que Samuel avait imaginé quand il s'est mis à la table au début de ce projet. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le roman de tous les possibles. Et toutes les histoires, finalement, qui sont écrites par Samuel dans l'impossibilité d'écrire celles de Malik, sont des histoires peut-être qui livrent aussi en creux le portrait de Malik Houssekine.
Mais ça, c'est un peu ce qui vous réunit tous les trois, donc Thierry S., Anne Serre, Étienne de Montetti. Au fond, vos livres contiennent une infinité de romans qui auraient pu être faits. D'ailleurs, certains ont été faits. Les livres de Fleurus ont été écrits, même s'ils n'ont pas rencontré le succès escompté.
Oui, moi, je pense que vous avez raison, Thierry S., tous les romans sont possibles, les écrivains les portent en eux, j'allais dire même s'ils ne les écrivent pas, ils existent dans une petite partie d'eux-mêmes, ce qu'ils rêvent aussi existe. Après, un roman est publié, de fait, son aventure, son succès, son couronnement, et même sa postérité, tout ça, c'est une autre histoire, mais tous les romans sont possibles, et les écrivains, ce thème qui nous réunit, portent ces romans en eux.
On va continuer à parler de littérature en train de se faire, de personnages d'écrivains, d'auteurs et son double. On commence avec vous, Étienne de Montetti, avec L'Amant Noir, qui est publié chez Gallimard. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Jacques Dutronc, évidemment, Opium.
Oui, c'est une reprise d'une très vieille chanson des années 30, donc c'est un peu ce climat-là, mais Dutronc l'a repris, et c'est un chanteur que j'aime bien.
Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas de nom. Mais le soir on entre bon, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, oiseau de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux.
Opium de Jacques Dutronc, c'est le choix d'Étienne de Montetti qui publie L'Amant Noir chez Gallimard. Évidemment, l'opium est central dans ce livre et Jacques Dutronc, quelqu'un que vous affectionnez, il a bien sublimé l'opium.
Oui, il le fait avec sa voix et ça change un petit peu des chansons de Dutronc qui sont toujours très amusantes et très symptomatiques d'une époque. Là, l'époque de l'opium est un peu passée, mais Dutronc lui donne ce charme avec sa voix rauque que j'aime bien.
Alors avec L'Amant Noir, donc L'Amant Noir c'est le nom que vous donnez à l'opium. Vous parliez d'ailleurs de sensualité, d'un rituel qui se rapprochait d'ailleurs d'un certain érotisme, du geste de l'amour. Quand on ouvre votre nouveau roman, on est à l'hiver 1944 dans un meublé de l'avenue de Saint-Ouen à Paris. On découvre un homme qui survit dans cette chambre avec deux obsessions, l'opium et la littérature. Il essaie d'écrire, il essaie de terminer, de mettre fin à un vieux rêve qui est un scénario tiré des Désenchantés de Pierre Loti. Pierre Loti qu'il affectionne tout particulièrement. Il est l'heure pour lui de signer son chef-d'œuvre, pense-t-il. Et puis, on va revenir aux origines du parcours de cet homme, qui est d'abord un ancien héros de la guerre, qui est un lieutenant, Fleurus Marie Duclerc, du 161e régiment d'infanterie, dont le destin, au fond, semblait absolument tout tracé. Il a fait la guerre, il a bien fait la guerre. Et puis, tout a basculé, comme souvent, dans cette ville qu'on appelait jadis Constantinople, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul, qui a été aussi Byzance, qui a fait rêver beaucoup d'écrivains, et pas seulement les écrivains. Il découvrira là-bas une ville, une micro-société, une femme, aussi une jeune femme, Artemis Démétrios, et l'opium qui va bientôt devenir son seul amour. C'est une descente aux enfers que vous racontez, Étienne de Montetti, mais qui est sublimée, je trouve. D'ailleurs, oui, l'opium, mais d'abord par la littérature et le rêve de littérature. Pourquoi vous n'avez pas appelé ce livre, non pas L'amant noir, mais L'amante noire?
Il y a concurrence dans le cœur de Duclerc entre, effectivement, les femmes, Artemis en particulier, la littérature et l'opium. L'opium se révèle le poison le plus puissant, mais la littérature se défend bien, parce que d'abord, il est un grand amoureux comme lecteur. Il publie un certain nombre de romans, il a à Paris une petite carrière littéraire. Et à la fin de sa vie, effectivement, détruit par la désillusion, détruit par la drogue, il faut le dire, il garde quand même ce lien avec la littérature, avec ce scénario dont il espère qu'un jour il verra son aboutissement. Et puis surtout la poésie, voilà, qui est son dernier lien, même s'il n'a pas pu lui-même s'accomplir comme écrivain. Il garde cet amour infini de la poésie. Son dernier plaisir, c'est de lire et de réciter de la poésie. C'est un peu sa dernière bouée. Voilà, dans un bar en 1944, avec cette grave question. Est-ce que échanger, partager autour de la poésie avec un Allemand en 1944 à Paris, c'est un acte répréhensible ou pas? C'est une grave question que j'ai pas entièrement résolue.
Alors, il est décrit comme un poète dans la guerre, Fleurus, comme un lieutenant au fond plus intéressé par la littérature que par les faits d'armes. Il lit, il récite Chénier, Musset, Baudelaire, Pierre Louis. Mais il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour lui, et je voudrais qu'on vous entende lire, Étienne de Montetti. C'est Pierre Loti, convoqué comme la figure de référence. On vous écoute.
Constantinople, pour moi, ce ne pouvait pas être une caserne, un bureau avec des horaires et un chef vétilleux. C'était la deuxième Rome, le lieu de la gloire de Mehmet II, d'Aya Sophia, la sainte sagesse, et de la mer de Marmara chantée par tous les voyageurs. C'était la littérature que j'aimais, résumée par cette phrase de Flaubert citée par Maupassant. On peut se figurer le désert, les pyramides, le sphinx avant de les avoir vus, mais ce qu'on ne s'imagine point, c'est la tête d'un barbier turc accroupi devant sa porte. Je désirais ardemment rencontrer ce barbier. Et puis, comment ne pas nommer Loti, l'intendant de mon jardin secret? Je ne l'ai pas découvert dans la bibliothèque familiale où l'on trouvait plutôt les œuvres de Zénaïde Fleuriot, Henri Bordeaux, Victor Cherbuliez et René Bazin. C'est au collège que j'ai pu lire ces romans peuplés de femmes aux prénoms envoûtants, Asiadée, Féimée, Zaïadée, qui me faisaient rêver. Elles avaient mis le feu à mon imagination. Pour Loti, Constantinople était le sommet du raffinement humain. À côté, Paris, Londres et même Rome faisaient pâle figure. Je quittais la France de Barès et d'Héroulède pour une terre de délices, un paradis. J'étais comblé.
Merci Étienne de Montetti, extrait de L'amant noir. Qu'est-ce qui vous unit à Pierre Loti? Évidemment, Pierre Loti est dans l'imaginaire de votre personnage de soldat écrivain. Mais c'est parti de Loti, c'est parti de Constantinople?
C'est parti de l'homme qui a donné naissance à Fleurus Duclerc, qui est un personnage de ma famille, qui est le frère de ma grand-mère, pour dire les choses, et qui a eu une partie de cette vie, c'est-à-dire cette rupture après la Première Guerre mondiale et son cortège d'horreur. Il a souhaité rejoindre Constantinople, fuir la France de l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, fuir aussi un milieu, une société, sa famille, pour, comme Loti, et certainement inspiré par Loti, se plonger dans un Orient absolument rêvé, sublimé, un peu idéalisé, évidemment, le Constantinople que Loti décrit notamment dans Asiadée.
Et on parlait justement de l'écrivain et de son double. Il y a chez vous, qui écrivait cet amant noir, aussi le dessin de se mettre dans la peau, justement, de ce, puisque c'était quelqu'un de votre famille, pour lui offrir ce tombeau.
Oui, il y a une forme d'hommage, bien sûr. Et puis aussi, en me mettant dans la peau de cet homme que je n'ai pas connu, dont je sais très très peu de choses, parce qu'il est mort très jeune, comme mon héros Duclerc, me mettre à sa place, c'est-à-dire la place de l'écrivain dans le processus de création. Et ça, on y arrive tous assez bien parce qu'on a notre propre démarche. Et également, un autre point, c'est l'écrivain dans le milieu littéraire. Il y est sans y être. Les militaires lui reprochent d'être écrivain.
Sa famille
aussi. Les écrivains, le monde littéraire de l'époque, pas très éloigné d'une autre aujourd'hui, avec des revues, avec des faiseurs de rois, des jurés, etc.
Oui, il y a un passage sur le prix féminin.
Voilà, qui est le prix à l'époque qui m'a intéressé parce qu'il y avait Anna Noailles, donc aussi un écrivain d'origine orientale, on va dire, et puis Marcel Tiner, dont une partie de l'œuvre se passe à Constantinople. Bref, ce milieu littéraire, comment voit-il cet écrivain-là? Et ça aussi, ça m'a intéressé, à la fois la création et la place de l'écrivain dans le milieu littéraire de l'époque.
Donc il a écrit alors ce personnage dont vous tirez ce roman, ou vous avez...
Il a tenté d'écrire. Et il a été dans cette espèce de décalage permanent entre ce qui devait être sa vie réelle, d'une certaine façon, c'est-à-dire un militaire de carrière, et puis sa vie rêvée comme écrivain. Il a essayé de faire les deux, l'un puis l'autre, mais au fond, ni l'un ni l'autre, et ça a été une sorte de descente et de déchéance.
Donc vous lui avez inventé, en fait, des titres de romans.
Oui.
Qu'il n'a pas, lui, réussi à écrire.
Non, voilà. Et j'ai prolongé un peu le rêve qui avait été le sien. Il y a une petite chose qui est vraie, c'est que des vers de lui ont été publiés au Mercure de France au tout début des années 20. Des vers certainement écrits, au vu du style emprunté, écrits sous l'influence de la drogue.
Oui, donc il était aussi évidemment opiumane.
Opiumane, oui.
Est-ce que pour vous, l'écriture en train de se faire, ou même le personnage d'écrivain, d'autant plus étonnant ici qu'il s'agit d'un soldat, et que, vous l'avez dit, il vit dans une famille où certes on écrit des lettres dites de château pour remercier ceux qui nous offrent le gîte et le couvert, où on est habitué à tourner des compliments, mais l'écrivain, c'est celui qui, comme vous le dites, qui raconte sa vie, et ça, poids d'ailleurs, dit-il à un moment, comme ça ne se fait pas. L'idée d'un personnage écrivain dans un milieu qui, a priori, ne tolère pas les écrivains, en tout cas pas dans la famille. C'est ça qui a déclenché l'idée du livre.
C'est-à-dire, voilà, dans cette famille qui ressemble un petit peu à ce que je connais, on écrit, bien sûr, et on essaye d'écrire bien, et puis on aime lire, on aime les humanités, les belles lettres. Mais l'écrivain tel que le XXe siècle nous l'a fait découvrir, c'est effectivement quelqu'un qui met sur la table un certain nombre de choses, ses hantises, parfois sa vie, parfois ses amours, parfois sa misère, et qui brasse tout ça, et qui réfléchit à tout ça dans l'écriture. Et ça, évidemment, ça crée, avec sa famille, ça crée une tension, parce que c'est une famille où, comme disent les Anglais, on ne se plaint pas et on ne s'explique pas.
Un écrivain était à leurs yeux cet individu qui se répand, exprime ses sentiments, raconte ses maladies, ses déboires, les inflige aux autres. Pouah ! Un hirsute, le col ouvert, la main tremblante, les yeux dilatés par la passion et les désordres. Non decet, ça ne se fait pas. Tout était dit, fermez le banc. Alors, il y a évidemment ce milieu, le parcours d'un écrivain qui se défait progressivement de ce milieu, qui rencontre Istanbul, qui rencontre une autre forme de société, des femmes absolument merveilleuses au nom comme Artémis, prénom Artémis, ça c'est invention totale, ou vous avez aussi Artémis Démétrios? Vous avez aussi bénéficié d'archives.
Pas du tout. C'est tout à fait inventé, mais j'aime bien Istanbul et j'aime bien la société à Istanbul qui est d'origine européenne, ce qu'on a appelé jadis les Levantins, et qui sont des gens merveilleux dont l'histoire provient d'Italie ou de Malte et aussi de la Grèce. Et à l'époque, à Constantinople, il y a peu de Turcs stricto sensu, du moins dans le quartier que j'évoque, qui est le quartier occidental. Mais il y a cette population, cette Europe méditerranéenne très brassée qui est là. Et Artémis Démétrios est une fille de ces familles dont l'histoire se confond avec l'histoire de l'Europe, des personnages extrêmement romanesques. Et évidemment, pour Florus Duclerc, qui vient d'une famille assez classique finalement en France, il rencontre à travers elle mais une histoire merveilleuse et il va tomber autant amoureux de cette fille
que de son prénom,
évidemment, et de toute l'histoire qu'elle porte en elle, qui est évidemment une histoire que Lotti n'aurait pas désavouée.
Alors il y a l'opium, hein, évidemment, un motif puissant en littérature et qui est au centre de votre livre. Évidemment, on pense au poison de Baudelaire, on pense à Thomas de Quincey, aux confessions d'un mangeur d'opium anglais, même au Lotus bleu d'Hergé, pourquoi pas. En tout cas, la fortune littéraire et créative de l'opium est extrêmement puissante. La nouveauté ici, c'est qu'il est lié vraiment à l'acte d'écrire, mais en inversant les préjugés qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'il redonne, l'opium redonne confiance à l'écrivain, et l'acte d'écrire est vu aussi comme une forme d'opium. Les mots ont pour moi une vertu thérapeutique, dit d'ailleurs le personnage. Cette mise en concurrence dans le travail de l'écrivain, qui a été le vôtre, entre l'opium et la littérature, c'était aussi un des ressorts romanesque de ce personnage?
Non, j'y ai pas trop réfléchi, mais les choses se sont mêlées assez naturellement. J'ai pas voulu trancher, d'ailleurs. Il me semble que la littérature, chez un écrivain, fait moins de dégâts physiques que l'opium, mais il y a dans cet art, quand on écrit, de s'ouvrir, d'ouvrir des vannes en soi. Les images sont pas évidentes à exprimer, mais on devient extrêmement vulnérable, parce qu'en écrivant des choses, on cherche des choses au fond de soi. Et donc, les deux entreprises, avec la mise en danger de celui qui les opère, m'a bien intéressé, j'ai du mal à trancher entre les deux.
La question de la poésie est essentielle aussi dans ce livre. C'est un remontant pendant la guerre, hein. C'est un poète soldat. Un divertissement un peu épais, dit-il, une fois qu'il est à Constantinople. Et à la fin, c'est, je le cite encore, son dernier lien avec le monde extérieur, lorsque ce personnage qui est assommé par l'opium ne sort plus de chez lui, mais va partager avec cet officier allemand dans un bar, justement, là, j'ai presque la dégustation de poésie. Est-ce que vous ressentez ça aussi, cette fonction essentiellement modulable de la poésie, que chacun peut s'approprier et peut adapter finalement aux différentes étapes de sa vie?
Oui, alors ce point-là, il m'est très très personnel. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement la poésie, les anthologies de poésie qu'on peut avoir dans la poche sont véritablement un viatique pour moi quasiment permanent. Il m'arrive d'apprendre des vers. Avec les années, c'est de plus en plus difficile d'apprendre des vers, mais quand j'étais adolescent, j'en apprenais, j'en récitais, et c'est une sorte de gymnastique quasiment quotidienne. Lire un sonnet dans le métro, ou lire quelques vers, ou essayer de se souvenir de quelques vers simplement entre deux choses, c'est pour moi une hygiène merveilleuse, enchanteresse, et puis infinie, parce que littérature française, mais aussi littérature allemande, anglaise, que sais-je, c'est un trésor qui nous est donné. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain, la poésie n'est pas très à l'honneur, même dans le milieu éditorial qui est le nôtre.
C'est très peu publié.
On célèbre beaucoup le roman, et la poésie emprunte des chemins clandestins, c'est peut-être son destin d'ailleurs. C'est un peu dommage, et aujourd'hui, il y a une sorte de divorce entre la poésie et le grand public, la popularité de la poésie, et ça me navre beaucoup, et je suis pour le retour d'Aragon ou de Prévert, pour citer les derniers grands poètes qui ont été aussi des gens populaires.
Je demandais tout à l'heure à Thierry Hess si la mission était accomplie, finalement, un roman impossible, mais de fait rendu possible par la publication d'un livre portant le titre de roman impossible, donc finalement contestant le destin presque. Est-ce que d'avoir prolonger cet écrivain qui a existé mais qui n'a pas été écrivain, on a compris que c'était quelqu'un de votre famille, de lui avoir donné les livres qu'il n'avait pas pu écrire. Vous diriez vous aussi, Étienne de Montetti, qu'avec L'Amant Noir, vous avez accompli la mission?
Je pense, et mystérieusement, en l'écrivant, sans trop théâtraliser, il m'a semblé que ce personnage qui m'était proche généalogiquement, mais que je n'ai jamais connu, dont je sais encore une fois très très peu de choses, cette aventure me l'avait rendu très fraternel, comme si nos hantises, ou ce que j'imaginais être ses hantises, nous avaient rapprochés assez mystérieusement.
Donc c'est votre double.
C'est peut-être une forme de double, et j'ai lu dans la presse quelque chose que je ne savais pas, c'est que j'avais, d'une certaine manière, en écrivant ce livre, exorcisé des hantises que je portais en moi.
Voilà, tout va bien. Ça, c'est l'un des pouvoirs de la littérature. Alors, chez vous, il y a Lotti, il y a Chénier, il y a tous les poètes qui lient avec cet officier allemand. D'autres aussi, vous parlez d'Albert Samin, aussi, qui est présent dans ce livre. Pour vous, Anne Serre, il y en a qu'un finalement, hein, parce que Exit Walzer, Exit Kafka, il y en a un, c'est Villa Matas, qui est le sujet, le héros du livre, le partenaire, l'âme sœur, et même votre double, puisque vous arrivez à faire du Villa Matas tout en étant
J'arrive à parler en Villa Matas.
Voilà.
tous les écrivains sont des éponges, et dès qu'on aime énormément un auteur, je regarde du coin de l'œil Thierry S qui a l'air de me dire oui avec un
œil
malicieux. On est des éponges, et dès qu'il y a un auteur qui a vraiment une voix unique, dès qu'on l'aime, on se met à parler en sa langue. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Gertrude Stein. Quand je lis Gertrude Stein,
je parle en Gertrude Stein
pendant quelques heures. Après, ça passe. Mais et puis, je peux pas m'en défaire, surtout. Voilà. Donc, il y a une espèce de facilité à adopter le.
L'univers, même, on dit que les écrivains sont des lieux, pas seulement une langue.
Voilà, c'est pas simplement le ton, c'est pas simplement la manière de parler. C'est aussi l'univers. Mais Villa-Matas invite. C'est ce qu'il a de très particulier, Villa-Matas, par rapport à tous les autres que l'on adore, par exemple.
Il contient tout ça.
Voilà. Villa-Matas vous invite à ce jeu-là. Donc c'est très difficile, à moins d'être extrêmement froid et frigide. Un écrivain frigide peut résister. Sinon, vous êtes appelé, vous êtes séduit et vous y allez.
Ça s'appelle Voyage avec Villa-Matas. C'est publié au Mercure de France, là où votre ancêtre publiait ses poésies, Étienne de Montetti. On en parle tout de suite, on écoute votre choix musical. Alors vous avez choisi, Anne Serre, la musique du défilé de mode des papes dans...
Fellini Roma,
donc le défilé ecclésiastico. Défilé ecclésiastico, c'est la musique du défilé de mode des papes dans Fellini Roma, et c'est le choix d'Anne Serre qui publie Voyage avec Villa-Matas au Mercure de France. Pourquoi ce choix, Anne Serre ?
J'adore, de toute façon, j'adore les musiques de Nino Rota dans les films de Fellini, et celle-là en particulier, parce qu'elle a quelque chose, je ne sais pas si on peut dire ça d'une musique, c'est une musique ironique. C'est une musique ironique, c'est une musique grinçante. Moi, par exemple, j'imagine que la musique de Hamelin, quand il entraîne tous les enfants derrière lui, comme ça, j'imagine que c'est quelque chose comme ça. C'est une petite musique diablesse.
Alors, précisément, c'est diablesse. C'est vous un peu la diablesse, Anne Serre, dans ce livre. Parce que vous parlez du joueur de flûte de Hamelin, effectivement, qui punit les parents, d'ailleurs, en se servant des enfants comme gibier, avec cruauté. Et qui va les perdre en jouant cet air de flûte. C'était peut-être Nino Rota, déjà, ou une incarnation de Nino Rota. Est-ce qu'il s'agit pour vous, pour l'écrivain que vous êtes aussi, de jouer un petit peu, surtout dans ce livre, mais en général aussi, aux joueurs de flûte de Hamelin ?
Est-ce que je veux entraîner mes lecteurs ? Mais naturellement que je veux séduire et entraîner mes lecteurs. Comme j'ai moi-même été séduite. J'ai une grande histoire avec la séduction, dont d'ailleurs je me suis rendu compte au fond en écrivant ce livre, après plusieurs livres. J'ai une tendance à être envoûtée facilement, à être enchantée facilement. En tout cas, il s'est produit plusieurs fois dans mon existence des situations enchanteresses dans lesquelles j'étais prise avec félicité et avec, au bout d'un moment, la nécessité de sortir de l'enchantement. Je me rends compte maintenant...
Quand on écrit, il faut sortir de l'enchantement ou il faut entrer pour devenir un auteur soi-même ?
Oui,
vous êtes
enchantée
par Villa-Matas.
J'ai été enchantée par 1000 autres auteurs ou peut-être 100 autres auteurs. Oui, il est nécessaire de rompre avec l'enchantement, sinon vous vous endormez. Il y a un risque d'hypnotisme. Donc, il y a un moment, il faut dire non avec révérence à l'enchantement.
Et aux enchanteurs.
Et aux enchanteurs.
Alors, vous publiez donc ce voyage avec Villa-Matas, c'est au Mercure de France, c'est l'histoire d'une femme, d'un écrivain, qui est peut-être votre double, qui va convoquer par la seule lecture dans le train qui l'amène à Montauban, dans un festival littéraire, le personnage bien vivant, pourtant, d'Enrique Villa-Matas, donc le célèbre écrivain catalan, avec lequel elle va se mettre à converser entre réel, entre fiction plutôt, car d'ailleurs les derniers mots du texte, puisque vous vous amusez même, on parlait d'ensorcellement, à livrer une parodie de conte policier qu'il aurait pu tout à fait écrire, ce Villa Matas, où il est question d'une rocambolesque aventure de paternité, qui se terminera naturellement en sujet d'un prochain roman, et vous concluez sur ces phrases « Villa Matas était devenu un écrivain et un être de fiction ». C'était le plus bel hommage que vous pouviez lui rendre ?
Je crois, parce que c'est ce qu'il désire. Mmh. C'est ce qu'il désire dans son œuvre, et notamment dans Docteur Pasamento, qui est autour de ce sujet. Mais dans son œuvre, ce qu'il désire, c'est devenir un personnage. Comme le désire, au fond, peut-être, les écrivains. Et comme le désirait, enfin, je ne sais pas s'il l'a désiré, comme l'est devenu Walser, puisqu'un des grands modèles de Villa Matas, c'est Robert Walser, qui est devenu un personnage légendaire et qui est devenu un personnage de fiction. Donc je sens qu'à travers son œuvre, Villa Matas désire cette transformation en personnage. Autrement dit, il veut rentrer dans la fiction. Et qu'est-ce que nous voulons faire d'autre quand nous écrivons ? Ce qu'on veut au fond, c'est être happé et rentrer dans la fiction.
Quand votre narratrice prend le livre de Villa Matas, voici ce que Villa Matas lui fait. Parfois, je refermais le livre et le retournais un instant comme si je cherchais à voir dans son dos, comme les chats derrière les miroirs, comment c'était fait, comment c'était fabriqué. Puis je le réouvrais, m'y relançais et l'émerveillement rejaillissait comme si ces livres étaient des geysers permanents, des puits de pétrole en incessante activité. J'avais bien besoin d'être occupé ainsi, envahi par quelque chose d'heureux, de très heureux, car pendant des mois d'affilée, peut-être bien 12, j'avais souffert d'être envahi plutôt par une sorte de vide, de morne vide, dont j'avais une certaine connaissance, car c'était toujours l'état où je tombais après avoir publié un roman. C'est un carburant pour elle, Villa Matas.
Oui.
Qu'est-ce qui fait de ce Villa Matas quelqu'un ou un auteur de si énergétique, fictionnellement parlant, pour un écrivain ? Car elle est écrivain.
Oui, c'est sa joie et sa danse. En fait, ce que fait Villa Matas en écrivant son œuvre, dans chacun de ses livres, et quand on considère son œuvre, il crée un labyrinthe et il danse dans ce labyrinthe. Et vous savez, dans la mythologie crétoise, on dit que danser dans le labyrinthe assure l'immortalité. Voilà ce qu'il fait. C'est très excitant.
Mais c'est
ça.
Vous qui lui avez donné l'immortalité.
Oui,
voilà.
Mais moi aussi, je danse avec lui dans ce labyrinthe. Enfin, on est vraiment dans une situation absolument invraisemblable. Je danse avec Villa Matas dans ce labyrinthe parce que nous désirons tous deux acquérir l'immortalité.
On va vous écouter lire un extrait sur peut-être l'avenir de la littérature. Est-ce que c'est une danse dans un labyrinthe ? On va voir, j'en suis pas persuadé. Vous êtes avec Brigitta dans le wagon. Brigitta est un écrivain, un autre écrivain. Enfin, vous êtes votre narratrice, pardon, excusez-moi Anne-Serre. Et voici ce que dit Brigitta.
Brigitta est un écrivain dont je dis un peu plus loin dans le livre qu'au fond, je l'ai peut-être rencontré dans un livre de Villa Matas. Mais enfin, je la rencontre dans le train, dans ce train-là. Brigitta travaillait sur les premières phrases des romans et elle en avait réuni plus de 5000 qu'elle faisait défiler sur son site à la page « Mon obsession ». Elle me dit que lorsqu'elle ne savait que faire, elle se mettait devant son écran, allait sur son site et regardait défiler les phrases. Elle ne savait pas pourquoi, c'était les premières phrases qui lui plaisaient. Elle disait que c'était encore mystérieux pour elle, mais que ce qui lui plaisait aussi, c'était l'accumulation de ces premières phrases, une accumulation infinie. Elle était tentée par deux performances. Réunir dans une salle ou un stade 5000 personnes, faire défiler les phrases sur un écran géant, et chacune des 5000 personnes prononcerait tour à tour dans un micro l'une des 5000 phrases. Elle avait envie de faire quelque chose de collectif, elle ne voyait pas comment l'on pouvait désormais, si l'on était écrivain, ne pas faire quelque chose de collectif. Elle disait que cela allait dans le sens de la transformation de l'art d'écrire, qu'on ne pouvait plus échapper à cela. Sa deuxième idée de performance était de s'installer sur une scène pour y pousser un cri. Je lui dis que cette fois-ci, c'était peut-être pas très collectif, mais elle précisa avec beaucoup de passion que la salle serait invitée elle aussi à crier. « Aujourd'hui, j'aime le tumulte », me dit Brigitta, « je n'aime plus le silence ». Ou moins.
Alors là, on sent évidemment l'ironie sur ce que pourrait ou peut-être est déjà devenu la littérature. D'ailleurs, vous dites qu'il est impossible d'être écrivain sans se produire. Hein. C'est aussi une autre phrase importante du texte. Quel intérêt ou quel plaisir, puisque vous parliez de jeu, cela avait. Alors, chez Étienne de Montetti, c'est plutôt difficile tout ce qui concerne le milieu littéraire, l'accueil des romans, puisque Fleurus se fait même étrier dans le Figaro. Tout cet à côté de la vie littéraire, ce festival, vous lui rendez hommage. En même temps, on la sent distante.
Oui, non, enfin, qui est distante, qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, non, en réalité, moi j'aime beaucoup, maintenant, depuis peut-être mes derniers livres, maintenant j'aime beaucoup tous ces à côté, justement, être invité, à venir parler, être invité, à venir parler de son livre, dans des festivals, devant un public. Ce que je redoutais au début de mon parcours, de mon trajet, maintenant, j'y prends énormément de plaisir. Je ne considère pas que c'est mon travail d'écrivain, je considère que c'est autre chose, mais j'y prends beaucoup de plaisir.
Et alors, il est impossible d'être écrivain sans se produire, ou je cite encore votre narratrice, l'écrivain qui écrit ses livres n'est pas la personne qui se trouve devant vous, jamais celle qui se trouve devant vous a des amours, une vie de famille, une robe de chambre, n'aime pas le porridge, fume trop, à chaque semaine des séances de kiné, etc. etc. Mais celle-là, ce n'est pas du tout celle qui a écrit un livre, celle qui a écrit un livre n'a pas de corps, on ne peut pas la toucher, elle est même invisible.
Oui, autrement dit, c'est pas moi qui suis en face de vous, là. Je viens représenter cet écrivain, mais non, c'est lui ou celle qui est en train d'écrire une histoire. Autrement dit, c'est le narrateur en vous, c'est un personnage en vous qui a encore une fois des ressemblances, parfois pas tant que ça d'ailleurs, mais qui n'est pas... visible dans la vie quotidienne.
Très belle définition de ce qui peut être un écrivain. Feindre, mais tout est dans feindre. Feindre de faire alliance avec ce qui peut vous tuer. Il faut en finir avec Villamata, c'est la fin du livre.
Oui, oui.
Pourquoi en finir ?
J'ai dit qu'il faut en finir pour pouvoir... m'en débarrasser élégamment, gentiment, pour pouvoir reprendre mon propre chemin. Mais au fond, je veux peut-être continuer en sa compagnie.
Feindre de faire alliance avec ce qui peut vous tuer, ça vous plaît comme définition, Thierry S. Il est question d'être défiguré dans votre livre, dévisagé, vous le prenez au sens étymologique, détruire un visage.
Oui, parce que si l'écriture d'un roman est une aventure psychique ou intellectuelle, c'est aussi l'aventure d'un corps. Étienne de Montetti disait tout à l'heure que... la littérature ou l'écriture proprement dite ne détruisait peut-être pas autant que l'opium, mais Samuel Richard,
personnage.
Mon écrivain, est quand même fort abîmé à certains moments du roman, dans la difficulté d'écrire, et c'est pas du tout l'angoisse, ou c'est pas la peur terrible de la page blanche, c'est au contraire, je dirais, l'angoisse de la page écrite. C'est-à-dire, au fond, dans ce que nous écrivons, nous réveillons des démons, nous faisons apparaître effectivement des êtres ou des idées qui sont parfois terrifiants, et par là même, nous rendent malades.
Alors, en tout cas, elle a failli le tuer, votre héros, Samuel Richard, cette difficulté d'écrire. C'est tout le sujet de ce roman impossible. On en parle avec vous, ça paraît aux éditions de l'Olivier. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Heroes de Bowie. Voilà, on met Bowie dans le studio et tout de suite, on danse dans le labyrinthe dont parlait Anne Serre. C'est aussi un labyrinthe, finalement, Bowie. C'est le choix de Thierry S. qui publie le roman Impossible aux éditions de l'Olivier. Heroes de David Bowie, pourquoi ? Pour nous dire que les écrivains sont des héros ?
Ce sont des héros, peut-être, mais en tout cas, s'agissant de romanciers, ils se cherchent des héros. Je crois que... c'est l'une des raisons de mon choix de Bowie, c'est que, au fond, nous cherchons à construire des héros qui nous permettraient peut-être de savoir qui nous sommes, c'est-à-dire, au fond, des héros qui nous en apprendraient beaucoup sur nous-mêmes. Et Je pense que dans les Antilles, dont il était question déjà autour de cette table, il y a cette idée que certains personnages...
Antilles, c'est hanté.
Hanté, bien
Exactement,
sûr.
Exactement, il faut revenir, envoûté, voilà. C'est pas juste la peur.
Non, non. Bien entendu, hantise au sens de l'envoûtement. Il y a effectivement, soit dans l'histoire, dans la vie réelle, soit peut-être dans la littérature qui nous est proche, des sujets, des personnages, voilà, qui font leur chemin en nous et qui, à un moment donné, voilà, exigent, réclament qu'ils deviennent en quelque sorte un roman et, à travers un héros, un personnage, au fond, nous exprimons, je pense, un sentiment ou peut-être même, je dirais, les personnages que nous créons, les héros que nous créons, sont des sentiments, sont nos sentiments.
Mais c'est vrai que on a ici trois livres dans lesquels le héros est écrivain. Hein, chez Étienne de Montetti, il est soldat, mais il écrit aussi. Il est aussi hanté. Chez vous, Anne Serre, en Villa Matas, et là, le personnage de la narratrice est écrivain aussi. On ne parle que de littérature, les écrivains sont là, les personnages sont des écrivains. Et le sujet du roman Impossible, c'est un écrivain qui porte d'ailleurs le nom d'un de vos personnages, le personnage de votre deuxième roman. C'est vrai qu'on reproche parfois aux romans français contemporains de trop toujours mettre en scène des personnages d'écrivains. Ça vous a pas, ça, vous...
Oui.
Vous en fichez, Thierry.
Non, Philip Ross avec Nathan Zuckerman ne fait pas autre chose. Et d'ailleurs, Nathan Zuckerman apparaît dans plusieurs romans majeurs de Ross. Donc, cet alter ego, si vous voulez, ce double littéraire, moi, je ne l'imagine pas comme étant, je ne sais pas, funambule. Et en tout cas, je crois que dans l'écriture elle-même, qui est son activité principale, il y a quelque chose aussi de consubstantiel avec, bien sûr, ce que nous faisons. Et je crois que c'est il y a quelque chose qui est tout à fait naturel, finalement, à se donner, à se donner
comme
narrateur.
Si, pardon, Anser, Thierry, oui. De vous couper, mais oui. Et puis, je pense qu'il ne s'agit pas simplement dans nos livres, là, ou d'aujourd'hui à tous les trois, de mettre un écrivain au centre du livre comme un personnage, c'est bien plus que ça, le matériau fictionnel du livre et la littérature.
Bien sûr. Thierry Hess, le roman Impossible. Donc, on est avec ce personnage qui s'appelle Samuel Richard, qui veut écrire un roman, qui serait un roman total, sur Malik Houssekine, donc mort le 6 décembre 1986 à Paris, après une manifestation étudiante, tué par des voltigeurs, alors qu'il sortait d'un club de jazz, il avait rien à voir hein, avec cette... Parce que c'est très précis hein, dans le roman Impossible. Il est devenu un symbole d'une certaine violence policière. Et il n'arrive pas, votre personnage, à écrire. Donc il va accepter un travail de commande, qui est parfois le salut pour certains écrivains, écrire quelque chose au sujet du duc d'Aumale. C'est un dentiste qui lui demande, et le duc d'Aumale est l'un de ses ancêtres. C'est un roman complexe, il y a plein d'autres choses aussi. On y croise Eric Woerth, on y croise Sakineh, la jeune femme condamnée à la lapidation qui avait fait aussi les grands titres de l'actualité. On y croise Jonathan Franzen, que votre personnage lit aussi. Dora Bruder, de Modiano, aussi est ici présente. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi votre personnage se dit que la mort de Malik Houssekine doit être absolument saisie par un roman. Pourquoi, de la mort de cet étudiant innocent survenu il y a 30 ans, décide-t-il de faire, 30 ans après, un objet romanesque? Est-ce que c'était parce que ça portait en germe quelque chose sur notre pays, sur notre... Qu'est-ce qui le pousse à se... bloqué sur
Malik
Houssekine.
Il ne le sait pas tout de suite, hein, bien sûr. Et puis d'ailleurs, les difficultés viendront parce que faire de Malik Houssekine le sujet d'un roman, c'est déjà problématique en soi. Il se trouve que devant les difficultés qu'il rencontre, il va accepter, vous l'avez évoqué, un travail de commande. C'est la première fois, effectivement, qu'il va faire le nègre pour un dentiste qui vit dans l'Oise et qui...
Qui
en veut à Eric Woerth. En fait, il revendique ou il s'imagine une filiation avec Henri d'Orléans, l'un des fils de Louis-Philippe, duc d'Aumale, connu pour ce fait de guerre, la prise de la Smala d'Abdelkader en 1843. Et Eric Woerth, que nous connaissons, est l'auteur d'un livre sur le duc d'Aumale. Et précisément, nous sommes au moment de l'affaire Bettencourt, et notre dentiste, dont on peut imaginer qu'il est peut-être un peu fou, imagine finalement que les mauvaises affaires qui arrivent à Eric Woerth souillent en quelque sorte son aïeul.
Donc il s'agit d'une d'une réparation par le livre.
Et
Malekoussekine aussi. Il s'agit de réparer par le livre aussi pour ce Samuel Richard.
Finalement, ces histoires qui paraissent assez différentes et assez éloignées à la fois dans le temps et dans l'espace sont très liées. Parce que le duc d'Aumale, c'est l'Algérie, effectivement, de la conquête. Malekoussekine, c'est un enfant que j'appellerais perdu de la République, mais qui est d'origine algérienne. Et au fond, une histoire en appelle une autre. Les deux sont liés. Et finalement, ce travail de commande, qui n'est pas un véritable travail d'écriture, qui est un travail de nerf, il va quand même y répondre comme un écrivain. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce livre sera refusé par le dentiste aristocrate.
Mmh. Alors, il y a un aspect qui revient aussi dans chacun d'ailleurs de vos romans, c'est le spectacle aussi de la vie littéraire. On en parlait tout à l'heure, les salons du livre, puisqu'il va se retrouver à cause de cette histoire du duc d'Aumale aussi dans les salons du livre. Il y a moi un passage qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé et je voudrais qu'on termine là-dessus et qu'on réfléchisse à cette idée. Votre personnage enseigne, on le voit arriver, puisque les livres s'entrelacent, on le voit lire Hannah Arendt, vous citez Hannah Arendt dans le livre. Je voudrais qu'on vous écoute lire, Thierry Hesse, un extrait, parce que je voudrais qu'on s'interroge aussi, pour terminer, sur l'idée d'éducation et de littérature.
Dans l'un des plus beaux passages de la crise de l'éducation, qui n'a pas autant impressionné mes élèves que je le souhaitais, Arendt écrit « La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres. » Mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l'enfant, c'est comme s'il était un représentant de tous les adultes qui lui signalerait les choses en lui disant « Voici notre monde ». C'est, je crois, la plus belle définition du métier de professeur que je sache. Mes élèves ont souri quand je la leur ai présentée d'une manière théâtrale, avec mon visage détruit. Mais ce furent, de la part de tous, d'Anissa comme de Régis, de Christelle comme de Justin, de Youssef comme de Marie, de Fuan comme d'Abdénour, des sourires bienveillants. S'il n'y a plus d'autorité, le monde ne peut plus être partagé. C'est ainsi que je comprends la pensée d'Arendt. Dès lors, la responsabilité de la marche du monde revient à chacun, et ce l'est. Repensant encore une fois à Paul, ce pauvre Paul, et à sa triste fin, mais que diable est-il allé faire dans cette galère impérialiste ? Je sais aussi que l'autorité ne peut être ni la violence, ni la terreur.
Merci Thierry Hesse, c'est un extrait du roman Impossible. Donc là, il s'agit d'éducation, avec cette très très belle définition de la transmission d'un professeur qui dit aux élèves « Voici notre monde ». Il y a plusieurs passages où justement la rupture de transmission apparaît comme vraiment la marque de notre époque. Est-ce qu'on a oublié cette fonction de la littérature qui disait aussi « Voici notre monde » ? Est-ce que c'était pas ça le roman qu'il voulait écrire ?
Bien entendu, je crois que le roman est un instrument de connaissance. Alors peut-être un instrument de connaissance parfois maladroit, c'est-à-dire la connaissance que nous offre le roman n'est pas celle de la science, mais je crois que il nous offre une perception du monde qui est d'une valeur inestimable. Et au fond, Samuel Richard, dans son projet d'écrire ce roman possible ou impossible sur Malekoussekine, veut peut-être aussi nous faire comprendre ce qu'est, je crois, la fragilité de notre société. Hein, quand il écrit ce roman, c'est au moment des attentats qui ont frapper Charlie Hebdo. Nous sommes Charlie, nous sommes fragiles, et je crois que le roman nous dit cela.
Merci Thierry Hesse. Anne Serre, vous qui avez embrassé aussi la littérature et Villa Matas dans ce train et convoqué toute cette bibliothèque qui se met à parler à travers elle, est-ce que aussi la littérature n'est pas aussi une façon de dire « Voici notre monde ».
Si, c'est très beau d'ailleurs, ces trois mots « Voici notre monde ». C'est magnifique. Si, bien sûr, et je dirais, enfin, comme vient de le dire Thierry, comme nous le savons tous, que la littérature nous a tous appris à vivre. Enfin, pourquoi a-t-on lu et pourquoi passe-t-on notre temps à lire et Villa Matas, et pour apprendre à vivre, pour continuer à apprendre à vivre. Et j'ai le sentiment que on parle du roman, là, on parle de la littérature. Ce qui est très important pour moi de signaler, c'est que je crois en la fiction. Je crois que la fiction permet de penser plus loin. C'est à ça que ça sert, la fiction. En quoi c'est supérieur au compte-rendu, au journal, c'est que la fiction permet de penser plus loin. Et inviter les autres à lire de la fiction, c'est les inviter à, non seulement à apprendre à vivre, mais à penser plus loin.
Étienne de Montetti.
Oui, la littérature, c'est un autre monde, de même que on a besoin de sommeil, de dormir, de se projeter dans un autre monde mystérieux qui est celui des rêves. Tout homme a besoin d'un autre monde, celui de ses songes, de ses espérances, peut-être l'expression de ses souffrances, que sais-je, mais c'est un...
Donc un autre, pas notre monde.
Ah, je ne crois pas.
Un autre monde.
Je pense que voilà. C'est un autre monde.
Merci Étienne de Montetti, merci Anne Serre et merci Thierry Hess pour cette heure passée à nous interroger sur la fiction, le double, l'écrivain, la littérature en train de se faire. Je rappelle le titre de vos livres, Le roman impossible, Thierry Hess est aux éditions de l'Olivier. Étienne de Montetti, L'âme en noir, c'est chez Gallimard. Et Anne Serre, Voyage avec Villamatas, c'est au Mercure de France. Merci à tous les trois.
Merci.
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 C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Michael Kobler de la librairie L'Usage du Monde, 32 rue de la Jonquière, dans le 17e arrondissement à Paris. Bonjour Michael Kobler.
Bonjour.
Alors vous venez nous parler de la biographie, de l'essai biographique d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle le présente. Clara Royer, donc auteur de Imre Kertész, L'histoire de mes morts, c'est chez Actes Sud. Donc biographie du prix Nobel de littérature 2002, c'est ça hein, je crois.
C'est ça exactement. Donc c'est bien la première biographie de l'incontournable auteur hongrois Imre Kertész, écrite en français. Et Clara Royer, elle est romancière, traductrice, universitaire, également scénariste. C'est elle qui a co-scénarisé le film Le fils de Saul qui avait été...
Formidable film, ouais.
Il avait été très remarqué à Cannes en 2015. Et c'est donc une des spécialistes d'Imre Kertész aujourd'hui en France. Cet essai biographique, comme vous le disiez, est donc fondé sur des entretiens, des sources inédites. Elle a pu le rencontrer à l'époque, à partir de 2013, elle a fait près de 20 entretiens avec lui. Et elle a eu accès également aux archives personnelles, jusque-là tenues secrètes par l'auteur.
Oui, qui était à Berlin notamment, et des journaux personnels, hein, je crois qu'elle a pu aussi...
Exactement, aux archives de Berlin. Et donc la matière de ce livre est extrêmement riche. Il revient sur les grandes étapes de la vie d'Imre Kertész. Depuis son retour des camps, il faut rappeler que Kertész est un rescapé d'Auschwitz et de Buchenwald. Et elle évoque les différents métiers qu'il a existé à divers moments de sa carrière. Il a été journaliste, scénariste également pour des comédies musicales légères et traducteur à la fin de sa vie. Elle insiste également sur le moment fondateur de sa vie d'écrivain, la découverte de sa vocation littéraire et également sa prise de conscience d'un impératif d'écriture et de vérité. C'est ce que lui appelle le couloir en L. Mmh. C'est un moment très important de sa vie.
Le couloir en L, oui, effectivement.
Une sorte d'éveil à la vie et de moment existentiel. Et enfin, elle parle des jalons de la lignée littéraire de Kertész, notamment sa rencontre avec l'œuvre de Thomas Mann qui a été déterminante, sa proximité avec Albert Camus, et des auteurs comme Kafka et Nietzsche, qu'il a notamment traduit, qui ont été importants pour lui. Et donc cette biographie évoque aussi avec précision l'ensemble de l'œuvre d'Imre Kertész. Elle est émaillée d'extraits de son journal de galère et de ses romans majeurs que sont Le Refus, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, et surtout Être sans destin, qui est le livre qu'il a révélé comme un auteur mondialement connu.
Et elle l'a rencontré, hein, au début du livre, c'est d'ailleurs très intéressant, on la voit, elle se décrit dans sa petite robe, il est question de cigarettes, elle a quand même eu une vingtaine d'entretiens donc avant sa mort avec lui.
Oui, elle a découvert son œuvre à 20 ans, il me semble, et c'est pour elle aussi une rencontre déterminante. Et elle a beaucoup étudié la littérature hongroise. Et c'est d'ailleurs ce qui est fascinant dans cet essai, parce qu'au-delà de l'essai littéraire et de l'histoire littéraire qui nous est contée, elle nous fait aussi entrer dans l'histoire politique de la Hongrie de la seconde moitié du XXe siècle. Et ce passage de l'histoire individuelle à l'histoire collective, à travers le regard de Kertész, et donc sur les différents régimes qui se succèdent après la Seconde Guerre mondiale, est absolument éclairante. Mmh. Donc c'est un travail précieux, aussi bien pour ceux qui connaissent son œuvre, que pour ceux qui souhaitent le découvrir ou le redécouvrir.
Ouais, c'est vrai que c'est une biographie qui donne envie de relire Kertész ou de le lire. Merci beaucoup, Michael Kobler, pour ce choix dont je rappelle les références. Donc Clara Royer, Imre Kertész, L'histoire de mes morts, essai biographique, c'est chez Actes Sud. Je rappelle que vous nous venez de la librairie L'Usage du Monde, très beau nom, Bouvier, très bon choix. 32 rue de la Jonquière, dans le 17e à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était le temps des écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Jean-Richard Dufour à la technique, la complicité aussi de Philomène Villard et Alice Devim. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette heure sur l'écrivain et son double avec Thierry Hess, Étienne de Montetti et Anne Serre.